Chapitre 57. En route, au son de la radio et des nouvelles dont il saisissait à peine le sens pour la plupart d'entre elles, Gabriel s'enfonçait dans la nuit, sur les interminables autoroutes belges, droites et monotones, qui creusaient une campagne à ficher le cafard. D'après ses recherches sur Internet, chez Jacob ouvrait à partir de 14h et fermait à 23h, tous les jours, sauf le dimanche. Avec une régularité de métronome, des halos orangés soulignaient la forme des entreprises métallurgiques qu'ils croisaient, des cheminées vomissant des flammes bleues et vertes. Gabriel le savait, sa quête le poussait vers le Tartare, l'endroit le plus profond des enfers. En retournant en Belgique, il plongeait dans son propre passé fracturé. Il aborda la capitale aux alentours de 20h sous un ciel menaçant. Après avoir affronté encore quelques bouchons du ring, il s'engagea une demi-heure plus tard en direction du quartier nord, longea les voies de chemin de fer encastrées entre les hautes tours et les hôtels aux larges vitres miroirs. Plus grand monde ne traînait dans le coin. Les derniers trains de province avaient déversé leurs passagers harassés. Désormais, des silhouettes lugubres rasaient les murs de béton de la gare. Avec l'acuité d'un vampire à l'affût, le peuple de la nuit reconquérait son territoire. Gabriel n'avait aucun souvenir d'être venu un jour ici, d'y avoir mené des recherches. La terre belge lui était aussi étrangère que la surface de la lune. Il se gara non loin d'une station de taxi et sortit emmitouflé dans son blouson. Un vent du nord sifflait entre l'acier gris des bâtiments et agitait les câbles électriques. Le quartier n'avait rien d'engageant, comme souvent à proximité des grandes gares. Après une centaine de mètres, guidé par son téléphone, il tourna rue d'Aerschot. Il sentit les effluves de sexe et d'argent liquide qu'on se passe de main en main. Des voitures roulaient au ralenti, éclaboussaient les piétons de leurs phares allumés, s'arrêtaient devant des silhouettes perchées sur des hauts talons. Un minimum de mots, un claquement de portières, un ronflement de moteur qui se perdait dans la nuit avec la promesse de caresser le diable. Il ne fallut pas plus de 30 secondes pour qu'il soit abordé par une prostituée au teint de lait, au corps de bimbo, lui proposant un éventail de prestations tarifées. Elle avait à peine 20 ans, accent slave, prisonnière moderne d'exploiteurs de misère. Au bled, on leur faisait miroiter un boulot, la protection de leur famille, la belle vie dans les pays de l'Ouest, voire un mariage. Mais une fois sur place, elles arpentaient le trottoir, battues, menacées par des matrones et privées de leurs papiers. Plus loin, des filles effeuillées dansaient dans des vitrines éclairées de rose, de vert, de bleu pâle. Des démons à louer ou à rejoindre dans la moiteur d'arrière-salle, où les chairs flasques se collaient les unes aux autres. Des types zonnaient de l'autre côté de la rue, cigarettes au bec, appuyées contre les murs ou renfoncées dans des poches d'obscurité. Des proxénètes veillant sur leur écurie et l'observant, lui qui avançait vite, la tête baissée, grain de sable dans une mécanique parfaitement huilée. Encore 300 mètres, et il bifurqua dans une rue perpendiculaire, accélérant le pas, écrasé par cette sensation tenace d'être suivi. À cet instant, il songea au traceur sous le siège de sa voiture, à son appartement cambriolé, au cadavre mutilé de la berge. Le tueur se tairait forcément quelque part, peut-être aux aguets. Il lui sembla d'ailleurs apercevoir un mouvement derrière lui, au moment exact où il jetait un dernier coup d'œil avant de tourner à gauche. Une fois hors de vue, il se mit à courir, s'engagea sous le porche d'un immeuble. L'ombre apparut à l'angle, regarda dans sa direction, marqua une légère hésitation et continua sa route dans l'autre rue, d'une démarche hâtive. Gabriel était-il réellement traqué? Il s'attarda 5 minutes supplémentaires et finit par se convaincre de l'absence de danger. Comment aurait-on pu être à ses trousses? Il rejoignit ensuite une artère populaire où s'alignaient échoppes et vitrines surchargées de babioles, la plupart fermées et protégées par des grilles. Des commerces alimentaires étaient encore ouverts. Les passants ne traînaient pas, silencieux, nés plongés dans leurs écharpes. Enfin, il arriva devant une façade minuscule à la devanture poussiéreuse, où s'entassaient d'étranges objets. Un serpent enroulé autour des barreaux d'une échelle miniature. Un agneau en bois sculpté fusionné avec un bébé, un kit vampire ou encore un bébé dragon flottant dans un bocal au liquide trouble. 2 ou 3 tableaux étaient également exposés, rivalisant de monstruosité. Une femme à tête de méduse, une forêt aux arbres tordus, leurs branches enfoncées dans la bouche d'un chien hurlant. Chez Jacob était le genre de boutique inclassable. Sur le web, il était écrit « cabinet de curiosité ». Aucun doute, il était à la bonne adresse. Il lorgna encore une fois autour de lui, méfiant, poussa la porte. L'endroit était plus grand qu'il n'aurait cru, tout en profondeur, mal éclairé, certainement pour instaurer une ambiance de circonstance. Gabriel avait l'impression de s'aventurer dans le grenier d'un collectionneur fou. Le lieu ressemblait à un mélange de normalité et d'impossible, à l'image de l'ornithorynque, le fameux animal au bec de canard, à la queue de castor et aux pattes de loutre. Un homme d'une soixantaine d'années arriva de l'arrière-boutique, curiosité parmi les curiosités. Maigrichon, pull rouge à col roulé, pantalon en velours côtelé kaki, et des lèvres trop fines pour recouvrir les dents de sa mâchoire supérieure, implantée vers l'avant comme pour racler les fonds d'assiette. Il adressa un bref signe au visiteur et se planta derrière son comptoir pour y lire un magazine, avec l'air d'une vieille gargouille fatiguée. Gabriel s'approcha de lui. « J'aimerais que vous me renseigniez sur un tableau que j'ai acheté chez vous en août dernier. »«
Quel genre de tableau ?»
Gabriel afficha la photo sur son écran de portable. Le sexagénaire fit le tour du comptoir et vint à ses côtés pour mieux la voir. Lorsqu'il reconnut l'œuvre, il leva un œil sombre vers son visiteur.
« Ah, c'est vous, votre tête. Je ne vous avais pas reconnu, vous aviez des cheveux. Et étiez beaucoup moins calme. Enfin, je vous dis ça, mais vous le savez déjà. »
« Justement, j'ai un problème de mémoire. Est-ce que vous pourriez m'expliquer exactement ce qui s'est passé ?» L'homme pointa le pouce vers son arrière-boutique.
« Juste deux secondes. J'étais en train de faire chauffer de la cire pour un moulage, et vu l'odeur, je pense que j'ai oublié d'éteindre. J'arrive. »
Gabriel était donc venu avant de revêtir l'identité de Walter Guffin. Il en profita pour faire le tour des babioles entassées, accrochées, suspendues. Il renifla les parfums de tanin, de cuir, de bois verni. Ces objets racontaient tous une histoire. D'où venaient-ils? À qui avaient-ils appartenu? Pourquoi leurs propriétaires les avaient-ils achetés avant de s'en débarrasser? Chacun témoignait d'un vécu. Et le tableau en sa possession aussi, forcément. Il avait une raison d'être. Il dénicha des toiles exposées çà et là, chercha à lire les signatures quand il y en avait. Mais rien ne ressemblait à l'affreux portrait de Julie et Mathilde. Le commerçant le rejoignit en s'essuyant les mains sur une serviette.
« Voilà !»
Le vendeur emmena Gabriel vers la vitrine et désigna le coin où reposait le bocal avec le bébé dragon.
« Le tableau était à cet endroit-là. » Quand vous êtes entré, il y a environ 3 mois, vous vous êtes rué dessus. Sans un bonjour, rien. Vous l'avez saisi et vous avez commencé à pleurer. Mais votre détresse a été de courte durée. Parce que après, comme je m'approchais, vous m'avez violemment attrapé par le col et plaqué contre le mur. Vous étiez à 2 doigts de me tabasser. Vous vouliez savoir d'où venait cette peinture.
Gabriel imaginait aisément son état lorsqu'il avait découvert le visage plus âgé de sa fille depuis le trottoir, après si longtemps et si loin de Saga. Il devinait son émotion, son excitation mêlée à la peur et à la colère. D'où venait-il ?
Je l'ai acquis auprès d'une riche veuve qui vendait une grande partie des collections de son mari. Le vieux était mort d'une crise cardiaque, si mes souvenirs sont bons. Elle avait déposé une petite annonce dans la presse spécialisée. Je me suis rendu chez elle pour voir si quelque chose pouvait me plaire.
Il fit un geste circulaire.
Comme vous le constatez, je suis plutôt branché bizarrerie, naturelle, scientifique ou ethnographique. Bien sûr, d'autres acheteurs de ces connaissances s'étaient pointés avant moi et avaient pris le plus intéressant, je présume. Il ne restait plus grand choix. En revanche, il y avait ce tableau. Il était terriblement morbide, mais il collait à mon univers. Ça faisait au moins 4 ans qu'il traînait là, dans un coin de ma boutique, quand vous avez débarqué.
4 ans. Gabriel trouvait la situation atroce. Les visages apeurés de sa fille et d'une autre kidnappée, exposés au regard de tous, et personne n'avait fait le moindre lien avec ces vieilles affaires de disparition française. Le petit homme alla pianoter sur son clavier d'ordinateur.
Lorsque vous avez compris que je n'étais qu'un simple acheteur-revendeur et que je n'avais rien à voir avec l'œuvre en elle-même, vous vous êtes calmé. Heureusement, parce que vous aviez une sacrée force, et vous étiez prêt à me tuer.
Il eut un rire nerveux.
Ensuite seulement, vous m'avez expliqué les raisons de votre hystérie. C'était votre fille, disparue depuis longtemps, on avait peinte. Selon vos propres mots, elle avait été kidnappée dans une voiture volée à Ixelles, et l'artiste qui l'avait prise comme modèle avec une autre fille était forcément impliqué.
Clic de souris. L'homme faisait courir sa langue sur sa gencive supérieure. Gabriel lui demanda si c'était tout ce qu'il lui avait confié.
« Non, vous m'avez aussi raconté que c'était cette voiture qui vous avait emmené à fouiner en Belgique. Ixelles, les communes alentours, puis l'immense Bruxelles, pendant des années. Vous aviez passé énormément de temps dans le quartier de l'enfer, le quartier nord, à cause de la prostitution, les clans de l'Est, la mafia, tout ça. Vous vous êtes baladé avec la photo de votre fille dans la rue d'Aerschot et dans les coins les plus sordides de la ville. Coup de bol pour vous, un soir, une prostituée a reconnu le visage sur votre photo. Pas en vrai, mais elle l'avait vu dans ma vitrine. »
Gabriel connaissait enfin l'origine de toute cette histoire. C'était donc un peu par hasard et certainement sans le moindre espoir qu'il avait fini par tomber sur cette toile. Une découverte qui avait enclenché tout le reste. Il zooma sur l'une des autres photos qu'il avait prises. « Regardez ici. Le tableau est signé par un certain A.G. Vous auriez une idée de l'artiste qui se cache derrière ses initiales ?»«
Vous m'aviez déjà posé cette question. Non, je n'en sais rien. »
L'homme griffonna sur un post-it avant de reprendre.
« Mais la propriétaire qui me l'a vendu, elle le sait probablement. Alors comme il y a 3 mois, je vous donne son adresse, »
anticipa le sexagénaire en lui tendant le papier.
« Sinon, votre mémoire, là, c'est grave ?»
Gabriel était en train de lire. « Simone Chmielnik, Ransbech. Assez pour que je ne me rappelle plus vous avoir déjà vu, mais je survis. Ransbech, où ça se situe ?»«
À 1/2 heure d'ici environ. » À la lisière de la forêt Brabant-Wallonne. C'est un coin de riche, vous le verrez rien qu'aux baraques. Simone Chmielnik habite carrément un manoir, style art nouveau. Enfin, si elle y vit toujours. Comme je vous le disais, c'était il y a 4 ans, et ce genre de maison, c'est beaucoup trop grand pour une femme seule.
L'homme réajusta d'un geste minutieux un cadre d'insecte naturalisé accroché juste derrière Gabriel et tendit son cou lorsqu'un couple à l'allure gothique entra. Tout en leur indiquant d'un geste qu'il allait s'occuper d'eux, il baissa d'une octave pour s'adresser à Gabriel sur le ton de la confidence.
« Je dois vous avouer que, même avant votre première venue et vos explications, je me suis toujours dit qu'il y avait un truc bizarre avec cette peinture.
Pourquoi ?»«
Elle était posée dans une grande pièce du manoir, parmi un tas d'objets que la veuve avait mis en vente. Quand je lui ai dit que seul ce tableau m'intéressait, elle me l'a collé entre les mains et m'a demandé de foutre le camp. Et vous savez quoi ? Elle ne m'a pas réclamé le moindre centime. »